Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Tout récemment, dans ce podcast, on s'est intéressé au Service National Universel, le SNU, cette nouveauté voulue par le gouvernement, dans laquelle pas mal d'observateurs, dont nous, ont vu une résurgence à minima, certes, mais une résurgence quand même, du service militaire. Alors après avoir creusé l'opposition au SNU et l'obsession très française pour la conscription, on a eu envie de s'arrêter un instant sur ceux qui font le choix de l'armée, ceux qui s'engagent, pour reprendre les termes, des affiches et des campagnes de pub pour le recrutement qu'on croise régulièrement dans nos rues ou sur nos écrans. Qui sont-ils? Quel sens donnent-ils à ce choix de vie et de carrière qui n'a rien d'anodin? Quelle réponse y trouve-t-il? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Même la grande muette se met à la publicité. L'armée de terre, soucieuse de son image et surtout de la qualité de son recrutement, propose en effet à partir de ce soir un clip télévisé sur le thème « Risqueriez-vous votre vie pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ?» Nous, oui.
Dès ce soir, sur toutes les chaînes généralistes, l'armée de terre s'offre une publicité sur vos écrans télévisés. Les dernières campagnes étaient faites pour recruter. Celle-ci n'est destinée qu'à changer une image de marque souvent négative de l'armée de terre. En clair, casser l'image de l'adjudant un peu borné, de la boue dans laquelle il faut parfois traîner et des cours de caserne que l'on doit balayer.
J'ai prononcé plusieurs fois le mot « il » à l'instant. Je devrais plutôt dire « il » et « elle » car depuis les années 90, l'armée s'est de plus en plus ouverte aux femmes, que ce soit du côté du service actif ou de la réserve, ces volontaires qui, en parallèle à leur vie civile, endossent de temps en temps l'uniforme pour des missions spécifiques. Ils sont notamment beaucoup sollicités depuis les attentats de 2015 et la mise en place de l'opération Sentinelle. Parmi eux donc, des hommes et des femmes comme Chloé, lieutenant réserviste en Île-de-France. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ce choix alors qu'elle appartient, comme moi, à une génération débarrassée des obligations de nos aînés.
Justement, je pense que le fait que ça fasse plus partie aujourd'hui de notre univers et qu'il n'y ait plus de service militaire obligatoire comme il y a pu y avoir à une époque, je pense que c'est un manque aujourd'hui qu'on a dans la société d'aujourd'hui, parce que dans l'institution de l'armée, on apprend quand même certaines valeurs de base, de savoir-vivre, de savoir-être, de comportement. Et de comportement en communauté. Donc moi, je pense que vraiment, en fait, j'aurais aimé faire. Donc du coup, je l'ai fait tout seul en m'engageant dans la réserve. Et puis les nombreux événements qui nous ont touchés ces dernières années, je me suis dit, moi, je m'en sens capable. Moi, je suis capable de m'engager. Et quand je regarde les gens que je côtoie autour, je sais que tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde ne peut pas prendre le temps de le faire. Donc je me suis dit, si toi t'en es capable et que tu peux prendre le temps, si tu le fais pas, personne le fait en fait. Donc il faut savoir donner de son temps pour essayer de faire en sorte que le monde tourne un peu plus rond. Et puis l'armée, ça apporte des compétences, des activités très diversifiées. Ça permet d'apprendre beaucoup.
Comme
ça,
quoi, par exemple?
Les activités sportives, les activités de topographie, de course d'orientation, la partie tir, ouais, qui est très intéressante, la partie moi comme j'ai un grade d'encadrement, toute la partie un peu ressources humaines, encadrement de personnes, évolution des gens, les intégrer dans l'institution, leur faire des choses pour qu'ils évoluent physiquement, mais aussi personnellement dans ce qu'ils sont. Et ce rôle d'encadrement, il est très important. Et moi, c'est une des parties dans lesquelles je m'épanouis le plus à l'armée.
Et c'est quoi les profils des gens que tu côtoies, toi, au sein de la réserve? C'est qui les gens qui choisissent de s'engager? Enfin, je ne demande pas de me faire une étude sociologique poussée, hein, bien sûr, mais, non, mais qu'est-ce que tu ressens des gens que tu côtoies, toi, au sein de la réserve?
C'est ça qui fait un peu la force de la réserve aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a tous les profils. Il y a des personnes qui sont étudiants, il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'études et qui se retrouvent à des grades plutôt en bas de hiérarchie, alors que dans leur vie civile, ils ont beaucoup de responsabilités, ou l'inverse. Il y a des gens qui sont en perte de repères, des jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est un peu... Et au final, au lieu de rien faire, ils sont là, et c'est bien mieux qu'ils soient là plutôt que de rien faire. Il y a des gens, il y a des anciens militaires d'actifs, il y a juste des citoyens lambda qui ont envie de donner du temps et de s'engager pour leur pays. C'est vraiment très vaste. J'ai de tout, des femmes, des hommes, tout caractère, avec des envies différentes les unes des autres. C'est ça qui fait la force.
Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi dans ces cas-là ne pas choisir le service d'active, justement. Qu'est-ce qui fait ce choix, voilà, cette espèce de dualité, ce besoin de dualité entre une vie civile et une vie militaire, vraiment. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est ça qui m'intéresse.
Alors, je vais parler pour moi, mais je pense que peut-être beaucoup de gens se retrouvent là-dedans, mais s'engager dans l'armée, dans l'active, c'est le sacrifice d'une vie. Encore plus pour une femme, puisqu'en fait on est en opération extérieure la moitié voire les trois quarts de l'année, donc pas chez soi, loin de sa famille, loin de ses amis. Donc c'est un engagement, c'est vraiment un engagement d'une vie, un engagement très fort. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt, et notamment les femmes, pas prêt à faire ce choix-là, ce choix de vie-là, qui est quand même très prenant. Enfin, être militaire d'actif, c'est pas seulement un métier, hein, c'est une vocation. Et je pense que c'est pour ça. Après, il y a beaucoup de gens qui commencent par la réserve et qui finissent par s'engager, notamment dans les jeunes.
Ouais.
Donc ça existe. Après, dans les personnes, puisqu'il y a des limites d'âge pour s'engager. Après, c'est les gens qui ne s'engagent. Pourquoi on ne s'engage pas? C'est parce que on tient notre vie civile, on tient à la vie de famille qu'on a, et que pouvoir le faire par intermittence, c'est bon, c'est le juste milieu.
Est-ce que toi, tu as vu évoluer le public qui vient vers la réserve? On parlait tout à l'heure des différents, on va dire, événements tragiques qui ont pu frapper notre pays ces dernières années. Est-ce que toi, tu as vu évoluer le public, la population qui vient vers la réserve, et peut-être les ressorts de leur engagement, justement?
Je ne l'ai pas vu évoluer parce que je ne suis pas réserviste depuis suffisamment longtemps, mais ça a surtout évolué dans le sens où les gens se sont plus mobilisés, se sont plus dit « et pourquoi pas moi ?» et il faut que j'aille voir comment ça se passe.
Et du côté du service actif, alors, évidemment, vous vous doutez qu'il est assez difficile d'entendre directement des militaires du rang. L'armée ne traîne pas son vieux surnom de grande muette par hasard, elle n'est pas hyper branchée communication à tout va. Heureusement, des universitaires se penchent régulièrement sur la sociologie des armées. C'est le cas de Barbara Jankowski, elle est chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Elle est venue nous voir et je lui ai demandé, pour démarrer, qui étaient les jeunes qui s'engagent aujourd'hui.
D'abord, je vais vous donner une idée du volume. Je pense que ces dernières années, le volume a un petit peu augmenté après avoir connu une baisse. Je pense qu'au minimum, les armées recrutaient à peu près 12 à 15 000 jeunes. On en est à 23 000 depuis 2015, hein, depuis qu'on a mis en place l'opération Sentinelle. Et donc, sur ces 22 000, 23 000, c'est l'armée de terre qui recrute le plus. Et ensuite, je pense, dans des proportions à peu près égales, la marine et l'armée de l'air. Alors, les armées recrutent à tous les niveaux. Évidemment, plus on monte dans la catégorie des officiers, il y en a beaucoup moins. Mais donc, officiers, ce sont des grandes écoles. En revanche, l'armée de terre recrute ses militaires du rang. Ce sont des jeunes sans qualification, pour la plupart. Alors, sans qualification ne veut pas dire les plus à la marge de la société, parce qu'il faut quand même un minimum à la fois comportemental et surtout montrer une capacité à s'adapter, même au niveau scolaire. Donc, je pense que là, le niveau qui est requis, c'est le niveau bac, ou avec ou sans diplôme. Donc, alors, le niveau scolaire, c'est une chose, ça ne vous donne pas une idée de qui sont ces jeunes. La jeunesse française, vous savez très bien, elle est devenue de plus en plus clivée entre ceux qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas. Et évidemment, plus on vient d'un milieu favorisé, plus on aura de chance d'avoir accès à une grande école, à une université prestigieuse, etc. Alors que plus on vient d'un milieu défavorisé, et moins on aura de chance. Donc, c'est probablement, on en est sûr, c'est dans les catégories sociales les plus défavorisées que les militaires recrutent. Et là, ils recrutent aussi, je pense que c'est important de le mentionner, des jeunes français issus de l'immigration. Donc, je dis ça parce que c'est important dans la mesure où ça représente pour eux une chance d'intégrer un emploi, d'avoir un emploi, parce que on sait très bien qu'ils sont extrêmement discriminés, très très discriminés sur le marché de l'emploi, alors qu'ils ont plutôt le sentiment que l'institution militaire est une institution qui leur donne ce qu'on appelle une deuxième chance. Quoi.
Est-ce qu'on sait ce que ces jeunes recrutés par l'armée viennent chercher comme potentielle réponse, comme potentiel sens dans cet engagement? Est-ce qu'il répond uniquement au besoin de travailler et au fait que le marché du travail soit bouché quand on a un profil sociologique qui ne correspond pas aux classes dominantes, on va dire? Ou est-ce qu'il y a aussi, le besoin de trouver un métier qui a du sens?
Les jeunes qui s'orientent vers un métier militaire, d'abord, elles ne s'orientent pas qu'à cause du problème du chômage. On n'intègre pas, on ne devient pas militaire uniquement pour avoir un boulot. Parce que c'est un boulot beaucoup trop spécifique pour que ce soit la seule motivation. Et ce qu'on sait depuis très longtemps aussi, pour des études qui ont été faites, c'est que les jeunes s'orientent vers une armée particulière. Et ce ne sont pas tout à fait pour les mêmes motivations. Alors, l'armée de terre, ça sera peut-être plus pour le mouvement, le fait de partir, probablement aussi le collectif. On intègre une unité, on est très, très encadré, très soutenu. Les marins, c'est l'attrait pour la mer. Et on sait que dans l'armée de l'air, c'est beaucoup parce que c'est un métier très technique, que c'est le pilote qui est un peu le pilote de chasse, qui est un peu l'image vers laquelle on se tourne quand on pense à l'armée de l'air. Ils sont minoritaires, évidemment, en termes de proportion. Mais même les techniciens, les sous-officiers qui travaillent dans l'armée de l'air, adhère à cette image qui tire un peu, qui agrège tout le monde.
C'est plus perçu comme un corps d'élite que l'armée de terre, par exemple.
En tout cas, une arme très technique. Et ce qui est d'ailleurs assez injuste, parce que l'armée de terre est devenue extrêmement technique. Mais c'est vrai qu'on y rentre un peu plus pour, entre guillemets, l'aventure. Alors, ça, c'est l'aventure, c'était avant que les opérations extérieur se multiplie avec un caractère affirmé de guerre, ce qu'elle n'était pas dans les années 90 encore, où on parlait, c'était essentiellement des missions d'interposition entre des belligérants, alors que maintenant, clairement depuis l'Afghanistan, au moment où la mission en Afghanistan a viré, s'est transformée en véritable
mission de combat,
et de toutes celles qui ont suivi, jusqu'à celles qui sont déployées actuellement. Donc c'est moins l'aventure que le fait, je pense, d'aller combattre, tout simplement. D'abord, il y a un processus de sélection qui est fait par les armées, qui a énormément d'étapes entre le moment où un jeune va s'inscrire sur des plateformes mises à sa disposition pour dire, bon, je suis intéressé, il va être convoqué dans un CIRFA, un centre d'information, de recrutement des armées. Là, c'est interarmisé. Donc, on reçoit les jeunes, quelle que soit leur demande d'armée. Et le moment où il va signer vraiment son contrat, il y a X étapes qui, d'ailleurs, leur permettent de sortir, parce que bon, certains se trompent, et qui permettent aussi aux armées d'en écarter parce qu'ils n'ont pas les critères physiques ou pas les capacités, etc. L'engagement dans l'institut, enfin dans les armées, ça correspond aux besoins des jeunes, à leurs besoins clairement identifiés d'engagement. C'est pas pour rien qu'il y a 15% je crois d'une classe d'âge qui s'engage dans le service civique tous les ans, et je pense qu'il y en aurait même plus si les institutions développaient ça encore mieux qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc il y a clairement un besoin de donner du sens et le sens collectif primant sur la réalisation individuelle est clairement valorisée.
Est-ce que l'armée garde une trace ou un œil sur ce que deviennent ces jeunes qui se sont engagés une fois que leur contrat est terminé, une fois qu'ils ont quitté potentiellement l'institution et qu'ils sont retournés à la vie civile? Est-ce qu'on a une idée de ça, du parcours de vie de ces anciens engagés, de ces anciens jeunes, une fois revenus dans la société?
Bon, deux choses. Les armées accompagnent les jeunes dans leur reconversion. Les armées accompagnent le passage du statut de militaire au statut de civil. Quel que soit votre grade, quelle que soit la durée de votre engagement, vous allez être accompagné. Ils s'y prennent d'ailleurs longtemps à l'avance pour que personne ne soit surpris, parce que tout le monde ne peut pas avoir un contrat qui se renouvelle, tout le monde ne peut pas devenir militaire de carrière. Donc ça, c'est vraiment, je pense que les armées savent faire ça très, très bien, au mieux. Maintenant, il me semble, pour avoir déjà été confronté à ce type de questions que vous venez de me poser, qu'on n'a pas trop idée de ce que deviennent les militaires. Parce que c'est difficile à suivre.
Oui.
Ça demande, vous imaginez le nombre de jeunes qui passent. Et donc, au bout de 10 ans, ça fait un flux énorme. Les gens sont mobiles, les gens ne sont pas forcément faciles à suivre, quoi. Et ils n'ont aucune obligation, si ce n'est l'obligation de servir dans la réserve pendant, si je ne me trompe pas, 5 ans, une fois avoir quitté le service actif. Et il me semble avoir compris que même que les armées utilisent très peu cette filière-là pour recruter leurs réservistes, parce que même là, ça devient compliqué de les retrouver, voyez. Donc, ils préfèrent, les réservistes sont ceux qui se déclarent volontairement réservistes. Alors, je ne parle pas peut-être pour des spécialités très pointues, etc. Mais dans la masse, c'est très difficile. C'est une population, mais c'est une vraie question. Ce serait intéressant parce que c'est quand même, on a là un volume important de jeunes qui sont passés par les armées et de savoir. Qu'est-ce qu'il en reste 5-10 ans après, ce serait très très instructif.
Et voilà, une idée de sujet gratos, parfait à creuser pour un prochain épisode. Merci à Chloé et à Barbara Jankowski pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.